Bon, on va parler de la consigne. Il y a une commission parlementaire là, qui commence cette semaine à Québec et on sait que ce sont les produits de verre, de métal, certains plastiques, bon, les bouteilles, etc. Et là, il y a le Conseil canadien du commerce de détail à qui on va parler tantôt qui prétend que ça va nous coûter, à nous consommateurs, là, 300 millions.
Bon, il y a plusieurs points là-dedans. Un, évidemment, on utilise la pauvreté pour faire passer son poids. Hein. C'est une stratégie de relations publiques. Ça fonctionne souvent de dire « le consommateur va payer ». Donc, le consommateur paierait en bout de ligne s'il y avait un éco-frais, quoi. Parce que si le consommateur rapporte sa consigne, techniquement, il se fait rembourser. Le consommateur va avoir plus de troubles. Ça, c'est vrai. L'autre point, ça va nous prendre une salle pour gérer nos déchets chez nous bientôt. Mais le point, c'est que depuis le début des temps, il y a en économie ce qu'on appelle l'externalité. Et personne ne paie l'externalité de plusieurs produits, de plusieurs polluants. C'est-à-dire...
C'est quoi ça?
L'externalité, ça veut dire que tu ne paies pas le juste prix d'un dommage que tu crées à autrui. Ben, la pollution, l'enfouissement, la récupération partielle. Ça permet à des acteurs de suremballer, surpolluer et d'y aller, par exemple, pour diminuer les coûts et non pas pour faire payer le juste prix. Et c'est peut-être pour ça que présentement, on est dans un mode suremballage depuis des années, qu'on pense qu'il est en réduction, mais que finalement, avec la COVID, on est de retour de plus belle. Et que dans des commerces au détail, pour mettre en valeur des petits produits, on met un gros emballage. Un bon exemple, c'était une clé USB ou une carte SD, à l'époque, qui était dans un emballage de 8,5 par 11 pour montrer que c'est gros parce que tu payes 100$. Donc, physiquement, le consommateur a besoin d'un gros emballage. Mais la consigne, c'est pour empêcher justement l'enfouissement de certains produits. Le problème, c'est que le commerce va dire, écoutez, là, c'est en amont qu'il faut aller. Puis là-dessus, ils ont raison sur une chose. C'est, les producteurs qui vendent au Canada devraient être contrôlés, les matières utilisées, la quantité de plastique, la quantité de carton. Qu'est-ce qu'ils font? Ils devraient payer un éco-frais. C'est le consommateur, à un moment donné, qui devrait payer le juste prix de l'emballage qu'il va avoir. Et là, on entre dans l'internalisation des coûts. Mais ça coûte de l'argent au consommateur ultimement. C'est vrai, les coffrets.
Mais là, est-ce que je comprends que dans le projet de loi, là, dans le plan qui est proposé, ce sont les entreprises qui vont devoir aussi s'assurer qu'on récupère?
Oui, puis là, la question, c'est...
Comment tu fais ça? Là?
Je te donne un bon exemple. Là. Pierre-Yves s'en va sur Amazon, mettons, commande de quoi? De la Chine. Là. Ça arrive d'un emballage douteux. Là. Ça contourne toutes les règles. Alors là, tu vas créer aussi des iniquités entre quand tu commences à gérer les déchets comme de cette façon-là. Les iniquités entre ce qui vient de l'extérieur puis ce qui est localement acheté chez le détaillant. Donc, les détaillants vont avoir la pression de la récupération puis de la vente aux détaillants canadiens, mais ce qui vient de l'étranger va-t-il être aussi bien contrôlé? J'en doute tellement. C'est un peu comme les emballages avec la langue française et anglaise.
Ouais, ouais.
Tu commandes sur Internet puis ça arrive dans une langue que tu peux pas déchiffrer, ben c'est un peu ça aussi.
C'est parce que, moi, je me souviens de, quand Québec avait instauré les crédits carbone, là.
Oui.
Puis j'ai fait une entrevue à l'époque, c'était David Hurtel qui était le ministre, puis il m'avait dit « N'ayez crainte, le consommateur ne paiera pas un sou de plus, ce sont les compagnies qui vont l'absorber. Ouais. » Excuse-moi, là, c'est pas ça qui arrive dans la vie.
Mais en même temps, le consommateur doit payer le juste prix de sa pollution.
Oui, c'est correct.
Et c'est ça qu'on n'est pas habitué.
Mais compte-moi pas d'histoire, moi c'est juste ça.
C'est comme si sur ton carburant, je t'ai ajouté 50 cents le litre parce que tu crées de la pollution dans le monde. Ben là, tu dirais, ben écoute, c'est le juste prix, hein, c'est l'internalisation des coûts. Là, je me ferai pas d'amis en disant ça, mais c'est un exemple.
Mais là, il faut que tu t'entendes sur le juste prix.
Oui, parce
pas
que
toujours,
le choc tarifaire, le juste prix, combien ça coûte, et est-ce que l'argent va être utilisé à de bonnes fins? Et ça, c'est le défi.
Ça nous ramène le fonds vert.
Oui, ça nous prend des centres de tri, parce que le fonds vert, Paul, ça sert à des entreprises vertes.
Eh oui.
J'ai peinturé ma voiture verte. Il y avait un gars qui avait fait ça un moment donné. Il était marqué « For green vehicle » devant une borne rechargeable. Le gars, il avait peinturé son pick-up en vert.
C'est original.
Oui.
Un petit regard sur les marchés boursiers.
Oui, parce que là, depuis le début de l'année, on a des constatations. La première constatation, c'est qu'après la panique, il y a un retour à de nouveaux plateaux. Comme par exemple le S&P 500 aux États-Unis. C'est incroyable comment on voit maintenant là, qu'à 3400, 3500 points, la bourse redescend, remonte, redescend. Donc, c'est là que présentement, on voit que depuis septembre, on s'enligne sur ces chiffres-là à peu près. Et ça nous démontre aussi que l'investisseur de longue date, qui a pris son temps, qui a laissé son argent dans des titres de qualité aux États-Unis, a vu le rebond s'aligner avec ses désirs. Au Canada, par exemple, Paul, on ne peut pas dire que quelqu'un qui s'est 100% concentré canadien a eu, disons, la main heureuse parce que il y a eu une baisse par rapport au plateau. On s'est rendu l'année passée jusqu'à presque 18 000 points et là, on est à 16 200. Donc, la leçon à retenir, c'est qu'il faut avoir une diversification dans sa stratégie. On n'a pas le choix. L'autre point, c'est que la pandémie, évidemment, a attiré les investisseurs vers les technos et les spéculateurs. Et là, le Nasdaq, c'est le seul indice qui vraiment surperforme avant la pandémie. Et là, tu te dis, ouais, attends une minute, là. Est-ce que l'économie va mieux? Non, mais on a concentré la spéculation et surtout l'investissement dans les technos. Alors, il y a eu des grands gagnants comme Zoom, évidemment. Tout le monde s'est mis à investir là-dedans. Pas basé sur la valeur actuelle, mais sur, hey, si on s'en sert tous, et donc ça va fonctionner, et donc ça va se développer. Donc, Zoom a explosé. Et un bon exemple, c'est l'action est passée de 60-80$ à 575$, donc une montée fulgurante. Amazon, évidemment, a monté de 81% en un an. Apple a monté de 93% en un an. Évidemment, a été encouragé par le split de l'action. Même chose chez Tesla, après une redescente, évidemment. Et il y a des titres de qualité qui sont revenus de bon niveau, mais c'est pas la panacée. Je te donne un exemple. Microsoft. Microsoft va bien, excuse-moi. L'exemple, c'est plus du type Berkshire Hathaway, les banques canadiennes. Ça, ce sont des placements qui ont descendu, remonté, mais qui ne sont pas revenus à des niveaux antérieurs. Mais des titres comme Microsoft puis McDonald's, ça a été des placements sympathiques pendant la pandémie parce qu'on a vu un retour à la valeur d'avant et un dépassement. Donc, tu vois, c'est tout ça qui est beau, mais...
Faut pas prendre des décisions hâtives.
Non, puis le pire, c'est toujours les gens qui vendent liquide pour aller dans le sécuritaire, dans le creux d'une pandémie mais ou dans le creux d'une chute boursière. Vous allez payer le prix sur 1, 2, 3, 4 cycles.
C'est sûr. Merci, bonne journée.
Salut,
7h22. Comment ça va sur la 640?